Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, quand on parle de pollution atmosphérique en Europe, il faut se représenter une carte assez simple. Les pays scandinaves d'un côté respirent, les pays de l'Est, et dans une moindre mesure du Sud, eux, étouffent. Une piste pour réduire la pollution, réduire la vitesse. Direction les Pays-Bas, où le Premier ministre de centre-droit, Mark Rutte, a annoncé une mesure choc pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Le 20 mars prochain, la limitation de vitesse sur les routes du pays passera de 130 à 100 km/h. C'est une mesure impopulaire mais inévitable, car le gouvernement est désormais contraint par la justice de son propre pays à prendre des mesures drastiques pour diminuer la pollution avant la fin de l'année. Pas sûr que ça soit suffisant. Un reportage signé Frédéric Lebel.
À peine sorti du centre historique d'Amsterdam et sa circulation douce à vélo, c'est une toute autre image des Pays-Bas qui s'offre aux visiteurs. En voiture sur la Riksweg 10, l'autoroute qui ceinture la ville, il faut composer dès 6h du matin avec les ralentissements annoncés en hauteur sur les panneaux lumineux. Le pays est un des plus denses au monde, un des plus pollués aussi, selon Marianne Minesma, directrice de l'ONG écologiste Urgenda.
Si vous regardez les chiffres sur les émissions de gaz à effet de serre par personne, on fait partie des 10 pays les plus pollueurs au monde. Nous sommes un des plus gros émetteurs au monde. On pollue plus par personne qu'en Chine ou qu'en Inde ou que dans d'autres grands pays. C'est pourquoi on a vraiment une obligation de résultat. On devrait vraiment faire beaucoup, beaucoup plus.
Pas étonnant que les automobilistes fassent grise mine à l'annonce de cette nouvelle limitation de vitesse. Philippe Quérault est un Français employé par une société basée à Delft, au sud du pays. Il bouge beaucoup pour son travail et toujours en voiture.
Alors, j'habite à 20 km au sud d'Utrecht. Je travaille à Delft, c'est à 80 km, 20 km de plus pour aller à La Haye. Je vais régulièrement à Rotterdam, qui est à 70 km, 70 km de plus pour aller à Amsterdam. Donc, c'est pas rare de faire 150 km, 250 km dans la journée pour le travail, en effet.
Aujourd'hui, ces excès de vitesse lui coûtent déjà une centaine d'euros par mois. Autant dire que ça ne va pas s'arranger. Il reste encore un mois et demi pour s'adapter, mais Ferdinand Diermans, son collègue de bureau néerlandais, n'en croit toujours pas ses oreilles. La mesure est assez inédite pour le parti de centre-droit du Premier ministre.
J'ai été vraiment surpris, parce qu'on sait qu'il faut prendre des mesures drastiques sur le climat, mais ces mesures vont à l'encontre de toute la philosophie de ce parti. Officiellement, le parti est appelé le VVD, le Parti Populaire pour la Liberté et la Démocratie. Mais son surnom, c'est le parti vroom, 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 comme une voiture qui s'apprête à rouler très vite. Parce qu'il y a quelques années, c'est ce même parti qui a revu à la hausse la limitation de vitesse. C'est le genre de mesure qui plaît à leurs électeurs.
À la périphérie d'Amsterdam, l'ONG Urgenda a acquis une réputation mondiale. Avec 900 citoyens, elle a remporté 2 actions de groupe en justice pour faire baisser les gaz à effet de serre et les polluants dérivés de l'azote. Des succès inédits au nom de la protection des citoyens et de nos ressources. Le gouvernement est désormais contraint de réduire avant la fin de l'année les gaz à effet de serre de 25% par rapport à leur niveau de 1990. Un pas de géant. La directrice de l'ONG, Marianne Minesma, reste dubitative. Elle soupçonne le gouvernement de faire un pas dans la bonne direction pour pouvoir mieux polluer ailleurs.
Le gouvernement dit maintenant que si on conduit moins vite, alors on émet moins d'azote. Et donc, les entreprises du bâtiment, qui doivent beaucoup circuler dans le pays, pourront reprendre leurs activités, car leurs déplacements seront compensés. Donc, il s'agit juste de donner une marge de manœuvre au secteur de la construction, un nouvel équilibre pour permettre à l'immobilier de repartir.
Quelques 18 000 projets dans l'immobilier, mais aussi les infrastructures pour les aéroports, les éoliennes, les autoroutes étaient à l'arrêt. Ils vont donc pouvoir repartir.
Hazard reported ahead. In 200 meters,
turn left. Marianne Minesma est une guerrière que rien ne semble arrêter. Pour la COP21 à Paris en 2015, elle avait parcouru 500 km à pied pour marquer son engagement. Aujourd'hui, elle trouve que son gouvernement piétine.
Le problème avec l'accord de Paris, c'est que les objectifs sont très lointains. C'est pourquoi le gouvernement dit qu'il arrivera à tenir ses engagements pour 2050. Mais on se rend compte que même dans cette perspective, nous ne sommes pas sur les bons rails. On ne fait pas assez, mais le gouvernement dit « ne vous inquiétez pas, on fera mieux l'année prochaine ». C'est comme ça que fonctionne ce gouvernement, qu'il nous berne. Il reporte toujours à l'année suivante et ne fait pas ce qui a été promis.
Du concret et surtout du concret sont les maîtres mots de l'activiste qui s'est déjà illustré en faisant des achats groupés de panneaux solaires pour les particuliers ou en introduisant la voiture électrique dans le pays. La limitation de vitesse en journée va certes dans la bonne direction, mais il faudrait faire beaucoup plus.
Si vous conduisez moins vite, alors vous réduisez à la fois vos émissions de dioxyde de carbone et d'azote. Si vous avez moins d'élevage, vous avez moins d'azote et de CO2, c'est la même chose. En augmentant le nombre de zones humides dans la nature, ça résout en même temps les deux problèmes. Mais à ma grande surprise, le gouvernement ne fait pas ses choix. Ils disent, vous devez conduire à 100 km/h, mais seulement jusqu'à 19h. Et ensuite, pendant la nuit, vous pouvez recommencer à conduire à 130 km/h. Mais non, il faut imposer la limite de 100 km/h partout et tout le temps. Et quand on comptera la moitié de voitures électriques dans le pays, alors peut-être qu'on pourra commencer à penser à revoir à la hausse la limitation de vitesse. Mais là, on est face à une mesure très compliquée que personne ne comprend. Il faut faire simple pour enfin réduire nos émissions de dioxyde de carbone et d'azote.
Des mesures, des chiffres, des résultats, l'ONG ne se paie pas de mots et attend au tournant un gouvernement qui se déclare le plus vert de l'histoire et promet sa neutralité carbone à l'horizon 2050. You have reached your destination. Autobus.
Bucarest, en Roumanie, est l'une des villes les plus polluées d'Europe. Pour essayer de retrouver un peu de souffle, elle vient de mettre en place une taxe spéciale pour les voitures polluantes. Il y en a 600 000 en circulation dans la capitale roumaine. Les précisions de Benjamin Ribou.
La mairie de Bucarest s'attaque aux problèmes de circulation dans la capitale roumaine. Enfin, diront les opposants à la mairesse social-démocrate Gabriela Fira, pas réputée pour ses actions en faveur de la qualité de vie dans une ville saturée de voitures depuis de nombreuses années. En l'absence de réelles infrastructures pour les vélos et avec un réseau de transport en commun plus que limité, Bucarest est actuellement une ville entièrement dédiée aux voitures. On y recense plus d'1,5 million de véhicules immatriculés, dont plus d'un tiers sont très polluants, sans compter les milliers de voitures immatriculées ailleurs qui transitent chaque jour par la ville. Un gros volume de voitures pour une ville qui compte officiellement 2 millions d'habitants. Des Bucarestois qui ne disposent de guère d'alternative à la voiture, le réseau de métro ne couvre en effet qu'une partie de la ville, tandis que les bus et les tramways pâtissent, eux, du trop-plein de voitures. La taxe oxygène va tenter de changer la donne. À partir du 1er mars, les automobilistes devront s'en acquitter à la journée ou sur des périodes plus longues. Les tarifs diffèrent en fonction de l'ancienneté du véhicule. Se possédant une voiture immatriculée entre 2001 et 2006, norme Euro 4, devront par exemple payer une taxe de 5 à 15 lei par jour, soit de 1 à 3,50 euros pour avoir le droit de circuler en centre-ville. Les véhicules immatriculés entre 1996 et 2001, de norme Euro 3, n'y auront carrément plus accès du tout, même s'ils disposent de la vignette leur permettant de circuler dans le reste de la ville. Des amendes pouvant atteindre plus de 400 euros sont prévus. Exempt de taxes oxygène, les voitures électriques, hybrides, mais aussi de normes Euro 5 et Euro 6 qui ne devront rien payer. Tout ceci est un premier pas avant l'interdiction complète pour les voitures non Euro, Euro 1 et Euro 2 dans tout Bucarest à partir de 2022 et pour les voitures Euro 3 à partir de 2024. La loi devrait, si elle est correctement appliquée, dissuader une partie des automobilistes d'utiliser leur voiture. Considérée comme l'une des villes les plus embouteillées d'Europe, Bucarest est aussi l'une des plus polluées. En 2018, la Commission européenne a même décidé de traduire la Roumanie devant la Cour de justice de l'UE pour non-respect des normes de qualité de l'air.
À Barcelone, en Espagne, la mairie a carrément déclaré l'état d'urgence climatique et elle a décidé de réduire le nombre de véhicules dans le centre-ville. Il faut désormais une vignette pour pouvoir rouler dans une zone qui couvre 95 km². Pour le moment, aucune amende pour les contrevenants, mais des rappels à l'ordre. Et dès le 1er avril prochain, les policiers commenceront à verbaliser. C'est un reportage d'Élise Gazangel.
Barcelone est en état d'urgence climatique. C'est en tout cas ce qu'a décrété sa maire, Ada Colau, de la gauche alternative, le 15 janvier dernier. Avec un spot publicitaire montrant la célèbre statue de Christophe Colomb sous les eaux, la mairie a souhaité passer à la postérité.
Tant si fait alguna cosa comme si, non ?
Que l'on fasse quelque chose ou qu'on ne fasse rien, nous marquerons l'histoire. À nous de choisir comment, ceci n'est pas un exercice.
Això no és un simulacre.
Outre la déclaration symbolique, la mairie a surtout annoncé un investissement de 563 millions d'euros pour mettre en place une centaine de mesures visant à réduire de 2 millions de tonnes les émissions de gaz à effet de serre en 2030 comparé aux chiffres de 1992. Parmi les mesures concrètes, la mairie mise beaucoup sur sa zone de basses émissions, un espace de 95 km² comprenant Barcelone donc, mais aussi quatre autres villes de sa proche banlieue dans lesquelles les véhicules les plus polluants sont interdits de circuler. Monica Chouffré est fondatrice d'une plateforme contre cette zone de basses émissions. Elle dénonce une mesure mal préparée et touchant les plus pauvres.
D'abord, il faudrait améliorer les transports publics, construire des parkings et puis évaluer l'impact socio-économique sur la société. La mairie ne peut pas être le bourreau du citoyen. Pourtant, c'est ce qu'ils font en nous criminalisant et en nous montrant du doigt.
Les associations écologistes ne sont pas non plus complètement satisfaites. Elles dénoncent les concessions exorbitantes faites par la mairie. Ainsi, l'interdiction se cantonne à la circulation en semaine, entre 7h et 20h, avec plusieurs catégories de véhicules exclus du dispositif. Guille Lopez de l'association Eixample Respira explique.
Il y a déjà très peu de restrictions dans la zone de basse émission et ils ont créé un moratoire, par exemple, pour les transporteurs qui sont finalement ceux qui polluent le plus parce qu'une fourgonnette circule 10 fois plus qu'une voiture. Alors oui, nous sommes contents parce que nous sommes d'accord avec le diagnostic et que des choses commencent à se faire, mais nous croyons qu'il doit y avoir plus de fermeté et ce, sans délai.
Et l'urgence est réelle. Depuis 2002, Barcelone dépasse le niveau de particules fines établi par l'OMS et celui de dioxyde de carbone fixé par Bruxelles. Fin juillet, la Commission européenne a même saisi la Cour de justice de l'Union européenne contre l'Espagne et notamment contre Barcelone pour qu'elle respecte la législation en matière de qualité de l'air. La mairie estime que la zone de basse émission éliminera 20% des véhicules les plus polluants qui circulaient l'an dernier en ville, même si l'adjoint responsable des questions environnementales, Eloy Badilla, admet que cela ne se traduira pas nécessairement par une baisse de trafic.
Ça ne veut pas dire qu'il y aura moins de circulation, parce qu'il y aura des gens qui utiliseront les transports en commun, le vélo, ou qui marcheront. Certains vont profiter des restrictions pour changer de voiture. Donc, on verra quel impact ça aura sur la réduction du trafic. Mais ce qui est sûr, c'est que les véhicules les plus polluants, ceux qui, comparés à des voitures neuves, polluent 30 à 40 fois plus, ces véhicules-là auront disparu de notre ville.
Et pour atteindre les niveaux imposés par l'OMS, l'adjoint à la mairie reconnaît que cette zone de basse émission ne suffira pas à elle seule.
Il est possible que ça ne soit pas assez. Plus tard, quand nous analyserons la qualité de l'air et les conséquences sur la santé, on verra si on a besoin d'autres mesures complémentaires. Péage urbain, zone limitée à 30 km/h, priorité au transport public, tout cela nous permettra de voir si c'est suffisant.
Depuis la mise en place de cette mesure, les ventes de voitures neuves ont augmenté de 20% dans les villes concernées. Pour Xavier Basagagna, scientifique de l'ISC Global et expert en pollution atmosphérique, il faudrait surtout changer les mentalités.
Il doit y avoir moins de voitures, c'est tout. Évidemment, ça aide aussi que le parc automobile soit plus propre, mais les autres voitures polluent aussi. En fait, le plus bénéfique pour la santé, c'est d'arriver à faire en sorte que les gens abandonnent la voiture pour un autre moyen de transport.
À autre moyen de transport.
Selon le scientifique, la pollution de l'air dans la capitale catalane serait responsable de plus de 350 morts prématurées par an, presque autant d'AVC et de maladies cardiovasculaires, ainsi que d'une centaine d'accouchements prématurés.
À quelques jours du Brexit prévu à la fin de ce mois de janvier, l'Irlande du Nord s'est dotée d'institutions politiques en ordre de marche. Après tout de même 3 ans de paralysie pour la province britannique, l'unioniste Arlene Foster a été désignée première ministre et la républicaine du Sinn Féin, Michelle O'Neill, a été nommée vice-première ministre. Arlene Foster, qui retrouve donc le poste qu'elle occupait en 2017 lorsqu'elle a été emportée par un scandale politico-financier. Son portrait avec Anastasia Becchio.
Nous n'apporterons pas notre soutien au gouvernement car nous pensons qu'il a fondamentalement tort et qu'il nous mène dans la mauvaise direction.
Le ton est ferme, déterminé. C'est l'un des traits d'Arlene Foster qui s'exprimait ici devant la convention du Parti unioniste nord-irlandais en octobre. Christophe Gillissen est professeur d'études irlandaises à l'université de Caen-Normandie.
Elle a été choisie pour ce poste parce qu'elle a une autorité indéniable. Elle a un caractère, ce qui est très important parce que le Parti unioniste dont elle est la dirigeante est un parti qui traditionnellement était dirigé par les hommes. La culture est très patriarcale. Pour s'imposer dans ce milieu, il fallait quelqu'un avec une colonne vertébrale solide.
Cheveux coupés courts, tailleur classique, Arlene Foster est une femme à poigne, dotée d'une force de conviction. Conviction que cette mère de 3 enfants, née en 1970, s'est forgée durant les années sanglantes en Irlande du Nord. Enfant, elle a vu son père policier prendre une balle dans la tête, tirée par des membres de l'IRA. Quelques années plus tard, elle réchappe à un attentat contre son autobus scolaire, mais perd l'une de ses amies. Fabrice Mourlon, maître de conférence à Paris 13 et spécialiste de l'Irlande du Nord.
Arlene Foster fait partie d'une génération qui a connu la période la pire du conflit nord-irlandais. Évidemment, avec 2 traumatismes qui l'ont vraiment marqué dans sa jeunesse, c'est sûr que ça l'a plus impliquée dans le mouvement unioniste. Donc elle a fait partie premièrement du parti unioniste modéré, enfin général, et ensuite elle a rejoint le DUP, qui est un peu plus radical dans ses idées.
À la tête du DUP, depuis décembre 2015, Arlene Foster est nommée Premier ministre un mois plus tard, fonction qu'elle partage avec le nationaliste Martin McGuinness. Ce dernier démissionne un an plus tard sur fond de scandale aux aides aux énergies vertes. Un scandale qui écorne sérieusement l'image de la Première ministre, Christophe Gillissen.
Elle a essayé d'étouffer cette affaire, elle a essayé de minimiser son rôle, elle a sacrifié des proches pour leur faire porter le chapeau en quelque sorte. Donc tout cela a eu un effet dévastateur sur son image et l'un des résultats, ça a été les résultats assez mauvais du parti aux dernières élections le 12 décembre 2019.
Au législatif du 12 décembre, le DUP perd 2 sièges au Parlement de Westminster. Il n'en compte plus que 8 sur les 18 réservés à l'Irlande du Nord. Terminé donc le temps où Arlene Foster pouvait s'opposer, comme elle l'a fait face à Theresa May, sur la question du Brexit. Fabrice Mourlon.
Theresa May n'avait pas la majorité au gouvernement. Et elle a passé un accord avec le DUP pour avoir une majorité. Et donc évidemment, à cette époque, en 2017, Arlene Foster pouvait avoir une influence sur les décisions du Brexit. Alors maintenant que Boris Johnson a la majorité sans l'aide du DUP, c'est sûr qu'elle aura moins d'influence sur les négociations du Brexit.
Arlene Foster s'oppose à ce que l'Irlande du Nord soit traitée différemment du reste du Royaume-Uni dans sa future relation avec l'Union européenne. Mais sa marge de manœuvre est désormais réduite depuis la victoire des conservateurs de Boris Johnson. Christophe Gillissen.
Entre 2017 et décembre dernier, elle faisait sa loi, pour ainsi dire, à Londres et jusqu'à Bruxelles. Elle a été jusqu'à mettre son veto à un accord dans le cadre des négociations sur le Brexit. Donc elle avait un rôle international, ça lui est peut-être d'ailleurs monté à la tête. Là, le retour sur Terre est un peu rude. Les électeurs lui ont fait comprendre qu'il était temps qu'il s'occupe des affaires nord-irlandaises. Donc il y a sans doute eu une leçon d'humilité.
Une leçon qui n'est sans doute pas terminée. La commission d'enquête sur le scandale des aides aux énergies vertes doit rendre prochainement son rapport avec des conclusions qui pourraient lui être très défavorables.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux. À bientôt.